Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission. Au programme de l'art pour un intérieur quotidien, de la musique pour s'évader, une exposition pour repenser les peuples qui nous ont précédés et de la poésie pour décoller. Au sommaire, l'artiste plasticien Mathias Audin, rencontré à l'IAC, l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Guillaume est venu accompagné du groupe It Girls. Gaëlle nous entraîne sur la colline pour l'exposition Un empire des peuples au musée de Luc Dunhomme. Et Thomas nous fera entendre un extrait de La nuit est encore jeune. Nous terminons par nos Gédéons, bien sûr, quelques idées à explorer. Nous débutons avec une rencontre dans une salle de l'IAC, l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Mathias Audin expose Vortex à Era Player, une installation qui évoque une architecture de l'intime et de l'errance du jeune homme qui, pendant ses années d'études, a vécu la précarité du logement. On l'écoute.
Mathias Audin, on est ici à l'IAC, l'Institut d'art contemporain. Vous nous présentez une sorte d'appartement. On rentre dans un lieu très intime avec des objets qui sont en lien avec votre trajectoire, je crois.
C'est cette trajectoire qui est dont résulte mon travail. Et donc, je viens d'interrompre une période de grande mobilité en m'arrêtant à l'IAC. Donc, j'essaie de présenter cette expérience à travers des objets et qui contiennent en fait cette expérience affective qui est celle de traverser des espaces, de vivre d'un appartement à l'autre, parce que c'était cela aussi mon expérience pendant 2 ans et demi, mais c'est pour parler de comment on se construit dans nos espaces, comment se construit un chez-soi, notre intérieur est en relation à cela. Voilà.
Ouais, vous disiez en fait que vous aviez occupé des canapés, 15 ou 16 appartements différents d'amis qui vous ont hébergé pendant cette période-là, et que vous avez été aussi parfois impacté par les lumières, les ambiances, etc., qu'on retrouve aussi dans votre travail.
Oui, négativement ou positivement, en tout cas, on est transformé en passant d'un espace à l'autre, des espaces qu'on n'a pas forcément composés par nous-mêmes, mais qui finissent par nous composer en retour. C'est vrai que ce qui m'a le plus impacté dans cette expérience, en effet, c'était la variation des lumières d'un appartement à l'autre, où, je sais pas, pendant une période, je dormais à côté d'une baie vitrée, donc le matin, mon réveil se faisait auprès d'une certaine lumière. Cette expérience de la lumière, peut-être c'est quelque chose qui a été très important pour moi et donc que j'ai voulu représenter ici dans ces œuvres, parce que à chacune j'ai voulu leur donner donc une teinte différente. Et je pense que il y a l'idée, oui, d'un état émotionnel aussi, la relation entre l'intérieur d'un espace domestique et comment nous on ressent en fait, dans quel état d'âme on est selon dans quel espace on est, si la lumière est froide, si la lumière est naturelle, si la lumière est, si une fenêtre est murée, c'est des choses qui en fait, quand on bouge assez rapidement, c'est des choses qui peuvent avoir un fort impact sur nous. Et aussi cette idée de comment on s'adapte en fait au changement, à la brutalité de changement à répétition. C'est pas forcément quelque chose qui est facile, mais qui en tout cas nous transforme profondément, quoi.
Est-ce que le travail d'Armand, des nouveaux réalistes, vous ont inspiré ce travail? Il y a de l'ordre de la greffe, de l'ordre de la récupération, des objets qui sont fatigués ou non, que vous associez les uns avec les autres, le verre brisé, l'idée en fait de transformer certaines choses en vitrines qu'on a pu voir par exemple chez Armand.
Oui, oui, c'est des choses, effectivement. Alors à une époque, je suis passé par la ville de Toulouse et donc j'ai eu la chance de voir l'exposition des nouveaux réalistes. On a pu découvrir des tables fixées au mur avec des repas.
Spoilery, par exemple.
Tout à fait, c'est à lui que je faisais allusion.
Daniel Spoilery.
Oui, tout à fait. C'est un artiste qui m'a beaucoup plus marqué que Armand, pour le coup. Oui, effectivement, dans ce rapport aux objets usagés, industriels, aux standardisations, ces questions-là, elles ont été explorées à cette époque-là par les nouveaux réalistes. Je pense que je grandis dans un temps qui n'est pas finalement si éloigné. Ce qui a changé, c'est peut-être la forme des objets. On n'est plus sur de l'halogène, mais on est sur du LED. Et il y a ce monde qui évolue très vite, trop vite. Et donc, ce rapport au mouvement qui était le mien et le mouvement du monde aussi, du design et industriel, c'est des choses qui m'influencent et leur travail effectivement m'a beaucoup marqué à l'époque. J'étais jeune, je le suis encore, mais j'avais 21 ans. Ouais.
Merci beaucoup Mathias, c'était un plaisir.
Merci, pour moi aussi.
Son œuvre et celle de nombreux jeunes artistes est à découvrir jusqu'au 5 janvier à l'Institut d'Art Contemporain dans le cadre de la 17e Biennale d'Art Contemporain.
Un petit mot parce que moi j'ai vu cette exposition, c'est absolument formidable, il y a 10 artistes différents qui investissent chaque salle en fait totalement, c'est très très varié, c'est fascinant et l'artiste que tu as interviewé, Mathias, c'est vraiment une œuvre qui est assez bouleversante, vraiment c'est quelque chose de formidable et on va pas assez souvent à l'IAC, on parle du MAC, on parle des grands locaux et tant mieux, c'est pas le problème, mais vraiment aller à l'IAC cette année, c'est un lieu magnifique.
Bonjour Guillaume, cette semaine tu es venu accompagner du groupe It Girls. Merci à tous d'être sur notre plateau, je te laisse avec tes invités.
Alors ils ne sont pas tous là parce que vous êtes trois et vous êtes présents ici à deux. Pourquoi It Girls? Déjà, tiens, voilà, le nom du groupe, je sais, c'est une question bateau. Mais quand même, manger des filles, ça ouvre des horizons quand même.
Faut pas l'entendre littéralement. Ouais. Hein. Au départ, on était juste Elisa et moi, bref, au début, et on ne savait pas trop quel nom choisir. Et on est tombé dans notre discographie qu'on écoutait sur un titre de Brian Johnston Massacre. Qui s'appelle It Girls, mais IT. On aimait bien parce qu'il y avait le Girls aussi dedans, il y en était deux filles à ce moment-là. Et puis voilà, et on a voulu contrebalancer un peu ce IT de la IT Girls fashion et le transformer en IT manger, mais c'est pas pour manger des filles.
D'accord, juste... moi je voyais IT, H-I-T, mais non, votre musique c'est pas vraiment dans cette veine-là de faire des hits et des singles. D'accord, puisque donc vous sortez très prochainement le 8 novembre un album qui s'intitule Area Silencio, c'est s'appeler la zone silencieuse.
On se met souvent dans la zone silencieuse, passer un bon voyage, qui s'appelle Area Silencio, et on a trouvé ça joli.
Pour revenir à votre musique à vous, c'est vrai que c'est des constructions alors, un peu savantes. Comment vous construisez vos titres? Alors c'est en anglais, parfois, il y a un titre qui bientôt va sortir en espagnol.
Ça dépend, il y a quand même un motif un peu, enfin un modèle récurrent on va dire. C'est souvent ça part d'une rythmique. De temps en temps j'ai aussi une ligne de basse qui va avec. En général c'est souvent une boucle de 15 secondes et on brode autour, on met ça en commun, chacun s'envoie des idées un peu à distance, ouais.
Oui, voilà, on cherche un peu ce truc-là aussi de se laisser partir dans des influences, dans ce qu'on écoute sur le moment, tout ce qu'on écoute nous-mêmes dans nos oreilles et s'influencer de plein d'esthétiques et de plein de choses.
Mais justement, ce qui est intéressant dans la construction des chansons, c'est que justement, c'est déconstruit, qu'il y a un côté très fragile, en fait, dans ce que vous faites. Comment on arrive à créer de la fragilité, en fait?
Je pense qu'on part toujours d'un truc assez naïf. Essayer d'aborder la chose comme si on se redécouvrait nous-mêmes en tant que musicien, ou plutôt qu'on découvrait qu'on savait faire de la musique, s'enlever un peu toutes les barrières qu'il peut avoir dans nos têtes, juste faire vraiment la première intuition.
Sur YouTube, il y a un clip pour un titre et vous citez Henri Michaud. J'étais un petit peu surpris parce que Henri Michaud, c'est un petit peu particulier ce qu'il dit sur la musique. Vous savez qu'il disait que la musique était donc une vulgarité, elle attire les foules et c'est ce qui la rend inepte aux yeux du poète. Je me suis dit, c'est quand même curieux quand même de choisir quelqu'un qui a une telle détestation de la musique. Alors,
je
pourquoi
pense qu'on ne savait pas ça et qu'Elisa répondrait mieux que nous à cette question parce que c'est d'elle que ça vient. Et c'est d'un livre en particulier, il me semble qu'elle a lu ou des phrases l'ont touché là-dessus.
Il faut dire aux auditeurs qu'en fait la citation qui est sur le clip, c'est « Ne désespérez jamais, faites infuser davantage ». C'est vrai que c'est un peu plus positif, mais c'est vrai que Michaud avait un rapport à la musique qui était particulier.
D'accord, oui, vous me l'apprenez à moi personnellement, peut-être qu'il les a
pris en flagrant délire.
On peut peut-être revenir sur l'album. Moi je vous ai découvert avec le titre Canine. Enfin, les paroles sont un petit peu ésotériques en fait.
Oui, c'est souvent des paroles un peu imagées, mais après Canine, ça part sur une histoire vraie, entre guillemets, enfin voilà, et qu'après on a brodé autour. Parce que donc Canine, c'est aussi un film de Yorgos Lanthimos, qui a une vision très particulière, une image très particulière. C'est tout un univers, et donc le clip est inspiré aussi, qu'on aime beaucoup, ces choses bancales et un peu suspectes, où on ne sait pas si on doit être inquiété ou attiré.
Merci de cette référence au film de Lanthimos, parce que je n'avais pas du tout pensé à ça. Mmh. C'est son premier film, il est d'origine grecque, et après il a fait une grosse carrière aux États-Unis. Et j'avoue que ce film, moi, me sidère à chaque fois que je le vois, parce qu'il y a des cadrages décadrés, c'est on voit les personnages qui sortent de l'écran. Enfin, c'est complètement dingue. Et l'histoire est complètement dingue. Allez voir Canine, si vous avez l'occasion, c'est vraiment dingue. Ben, on va peut-être écouter le titre tout de suite. Canine du groupe It Girls qui vient de sortir son premier album donc qui s'intitule
Aria Silenzio.
Tout à fait. Et donc vous allez faire une release party au Sonic Clay 28 et 29 novembre.
Alors deux soirées un peu différentes. Donc Rémour le premier soir, duo belge de synth-pop romantique 80s. Et le deuxième soir, Almond Bultil qui est donc la moitié de Agar Agar qui est un super projet solo complètement barré. Il parle d'insectes et avec de la flûte, j'adore. Et donc le premier soir, ce sera le Set It Girls, a priori classique. Et le deuxième soir, c'est le gros pari, on réadapte la plupart de nos morceaux en format 6 pièces, donc avec un saxophone, un violon, un percussionniste, une guitariste en plus. Et voilà, et c'est les morceaux sont complètement différents.
Deuxième soir, il y aura aussi une scénographie exprès où le Sonic sera vraiment dans une autre ambiance. Il y aura une intervention d'une performeuse, Julia, qui va faire plein de petits interludes, plein de choses. C'est vraiment un spectacle. On l'a pensé comme un spectacle.
Alors justement, ça fait une transition sur le visuel de l'album, parce que ça aussi, il est quand même assez étrange. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de ce visuel
Hit Girls ? Le visuel, bah, donc du coup, ça part... si on regarde bien un peu de loin, on peut imaginer une fenêtre d'un train. Donc d'où vient l'air silencieuse, enfin l'Aria Silenzio. Et donc voilà, une petite direction. Et puis après, des petits dessins... Notamment, on peut voir quelques petites clés qui sont des motifs un peu récurrents dans notre direction artistique, si on peut dire. Et voilà, avec lesquelles on joue aussi sur scène bientôt. On aura des petits éléments de clés, tout ça.
Très, très beau. Et l'album est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est une grosse claque, ce disque. Alors, on va peut-être rappeler quelques dates de concert. Alors, vous allez partir en tournée, une mini-tournée. Hein. Vous allez être à Nantes, à Bordeaux, à Lonne, à Brest, à Tours. Et donc, au Sonic, le 28 et le 29 novembre. Et puis quand même, on annonce la date parisienne le 12 décembre à Paris, au Point Éphémère, donc c'est quand même une belle date.
Hein, aussi.
Tout à fait. Et puis aussi, un dernier truc qu'on n'a pas dit, c'est que vous faites partie des groupes suivis par l'épicerie moderne, donc dans le cadre de la raffinerie.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit mot?
Donc on a été pris dans cet accompagnement de la raffinerie, qui est vraiment super, où on peut bénéficier donc de la salle pour travailler la lumière, pour tourner des sessions live, pour travailler notre son, travailler donc tout notre nouveau concert.
Qu'on rappelle qu'Aérea Silencio donc, vient de sortir hein, depuis le 8 novembre, donc vous pouvez aller l'écouter sur toutes les bonnes plateformes, mais surtout l'acheter en vinyle.
Édition limitée de seulement 300 vinyles, transparent, voilà, il y en a.
Ben ça c'est du bon teasing, merci beaucoup en tout cas, Hit Girls.
Merci beaucoup
merci
à vous pour
vous.
L'invitation.
Bonjour Gaëlle, cette semaine tu évoques pour nous la nouvelle exposition du musée Luc Dunhomme sur la colline de Fourvière.
L'exposition « Un empire des peuples » au musée Luc Dunhomme pose la question suivante. Qu'est-ce qui a contribué à faire perdurer l'Empire romain? C'est l'un des grands axes d'investigation du musée. Car l'Empire n'a pas subsisté que par ses conquêtes, mais aussi grâce à ses peuples. Angle de l'actuelle exposition « Un empire des peuples », avec des mises en lumière de la diversité sociale et de la dimension multiculturelle des peuples de l'Empire. L'éventail est vaste. Gouverneurs de province, notables, soldats et femmes de soldats, artisans, commerçants, esclaves, soit 20% de la société, esclaves affranchis ou encore pérégrins. Ces hommes libres étrangers, mais sans la citoyenneté romaine. La découverte de ces peuples s'organise autour de 6 personnages emblématiques, soit 6 points d'entrée pour mieux comprendre la multiplicité des peuples de l'Empire. Servis par une remarquable scénographie en bois récupéré ou recyclé, scénographie ponctuée par d'innombrables dispositifs interactifs, qui est la grande caractéristique distinctive d'ailleurs du musée Luc Dunhomme. Le parcours vous transporte au sens littéral comme figuré dans les pérégrinations et le mode de vie de ces 6 personnages. Sur les 6 profils se comptent 3 femmes, Segundina Justa, Julia Elias et Cyrilia. Je vais donc vous présenter les 3 femmes. En compagnie de Segundina Justa, compagne de soldat Thrace qu'elle a suivi, vous partez à la découverte de l'iconographie militaire et des attributs des soldats comme un poignard Thrace ou une statue de cavalier Thrace. Les soldats marchaient environ 30 km par jour, avec un paquetage pouvant peser jusqu'à 45 kg. Une vitrine recense ces différents équipements, dont une paire de caligas, fameuses sandales lacées et cloutées afin de résister à de longues marches. Autre femme, Julia Elias, une flaminique, c'est-à-dire une prêtresse du culte impérial. Ce personnage nous éclaire sur le statut de certaines femmes. Sous l'Empire, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir une carrière politique, mais pouvaient en revanche faire carrière dans la religion. Ces prêtrises offraient de plus des possibilités de promotion sociale. Cas de Julia Elias, l'espace que lui consacre l'exposition propose une pluralité de divinités, dont de nombreux facsimilés qui peuvent être touchés. Pour l'anecdote locale, sachez que le corps de Julia Elias a été rapatrié de Rome à Lyon. Enfin, avec le 3e profil féminin, nous partons à la rencontre d'une esclave affranchie, Cyrilla, qui s'était mariée avec son ancien maître. Un contrat de vente d'esclaves est exposé, ainsi qu'un collier en bronze qui prévenait la fuite des esclaves. Une superbe mosaïque prêtée par le musée du Louvre va vous ébahir. Elle représente un banquet organisé par de riches notables qui louaient pour l'occasion des esclaves androgynes d'ornement réputés pour être des esclaves de luxe. Invraisemblable et définitivement d'un autre temps, ces esclaves d'ornement m'ont fait penser aux locations d'humains encore pratiquées au Japon pour lutter contre l'isolement social des hikikomori. Des agents spécialisés permettent de louer, par exemple, un ami joué par un acteur. Dans Un empire des peuples, en plus des œuvres et objets antiques, dont 40 prêtés par le musée du Louvre, 6 récits sonores et illustrés permettent de parfaire la connaissance des 6 personnages retenus. Autre récit, ceux signés par le poète-interprète Mehdi Kruger. Fruit d'ateliers d'écriture et de rencontres, il s'intitule « Tous les chemins se mêlent à Rome ». Présents en ouverture et en clôture de l'exposition, ces récits soulignent combien les migrations et les échanges culturels agrandissent le monde. Vous pouvez les écouter dans des petites cabanes confectionnées à cet effet. Enfin, saluons le travail de Camille Gabert, dont les remarquables illustrations jalonnent le parcours de l'exposition. Un empire des peuples est programmé jusqu'au 1er juin 2025. Plus d'informations sur lucdunhomme.grandlyon.com.
Merci beaucoup Gaëlle, ça donne vraiment envie de découvrir cette exposition, elle a l'air vraiment très bien. Bonjour Thomas, tu nous fais découvrir un extrait de La nuit est encore jeune, du collectif Catastrophe. Nous t'écoutons, on en parle juste après.
Il y a dans le ciel secret de nos mémoires un kaléidoscope de visions d'enfance qui luise à l'arrière-plan. Des photographies qui scintillent au fond de nos têtes et qui sont des énigmes que notre vie cherche à résoudre. Des images persistantes qui hantent et sur lesquelles on prend inconsciemment modèle dès qu'il s'agit de vivre. Pour nous, des terrains vagues. Nous avons grandi dans une impasse. Notre enfance se déroula dans l'avant-dernière maison d'une voie sans issue, près d'un froufrou de verdure qui restreignait l'horizon. Les jours sans école, notre jeu préféré consistait à investir ce Capharnaüm vert du bout de la rue pour y triturer les haies sauvages, nous dissimuler derrière les feuilles, y bricoler les cabanes éphémères, bref, royaume, en écartant parfois les branches dans l'espoir naïf d'y découvrir un passage secret. Jugeant inadmissible que notre rue s'achève là, nous voulions en éclater la perspective. Fréquemment, les voisins nous réprimandaient lors de ces tentatives, affirmant qu'il n'y avait rien à voir, que le bout c'était le bout, pas de quoi faire l'explorateur et surtout pas en salopant les végétations communes. Nous rentrions, éprouvés, regrettant une minute les lumières aperçues au-delà des broussailles, et puis nous cessions d'y penser. Une fois pourtant, nous avons franchi la frontière. Sûrement est-ce un faux souvenir, mais nous croyons être passés de l'autre côté des haies, trouant l'impasse de sorte à déboucher sur un genre d'ancien parc à l'abandon, jachère désormais disposée à tout devenir, terrain de jeu, de drogue ou de construction, selon celui qui, le premier, s'en emparerait. Pour le moment, un jardin secret. Nous n'y sommes pas restés longtemps sur ce talus sauvage aux allures d'Eldorado, nous n'y sommes pas restés car il fallait rentrer. Il y avait les devoirs, les parents, la chambre à ranger, le monde de l'avenue. Nous n'y sommes pas restés longtemps et jamais plus ensuite n'y sommes retournés. C'était assez. La vision dans nos esprits s'était imprimée. L'extrémité des choses pouvait toujours être éventrée. Il y avait, pour peu qu'on écarte les branches, des continents vierges à parcourir. Cette image, depuis, ne nous a plus jamais quittés. Et sûrement ne nous débattons-nous aujourd'hui en tous sens que dans l'espoir d'en retrouver la piste. Ce livre en est une première tentative. Nous sommes là, balbutiants, au début d'une enquête.
Merci beaucoup Thomas. De qui s'agit-il ? Alors, j'ai parlé d'un collectif.
Donc c'est un collectif qui s'est fondé il y a une petite dizaine d'années, en 2015, dont je connais peu de choses. Hein. C'est une amie qui m'a mis ça entre les mains il y a quelques jours, hein, autour de recherches pour notre petite maison d'édition, parce qu'on voulait chercher quelque chose d'assez emblématique d'une production collective. Voilà, une œuvre collective, c'est quoi ? Et ce recueil lui est venu très vite à l'esprit. C'est une qualité d'écriture. Il y a vraiment une tonalité commune, alors qu'il y a vraiment
une multitude d'auteurs.
Beaucoup d'auteurs, ouais.
Mais est-ce qu'ils sont cités, du coup, individualisés ou pas du tout ? Leur objectif
est
vraiment, de rester derrière, le collectif.
C'est ça. Ouais, okay. Alors, il y a des fondateurs, hein, qui sont annoncés pour ce collectif déjà ancien maintenant, Pierre Jouan et Blandine Rinkel, je ne sais pas comment on prononce. Oui. Ce sont des gens qui sont sur plusieurs genres artistiques, hein, ils ne sont pas simplement auteurs. Guillaume me faisait remarquer tout à l'heure qu'il les connaissait en tant que musicien. Mais là, je reviens vraiment à l'écriture. Je n'ai pas encore fini ce livre. C'est une succession de flashs sur toutes ces catastrophes en cours dans notre monde, avec un regard de jeunesse, en fait, hein, mm-hmm. de gens qui avaient autour d'une trentaine quand ils ont écrit ça. Comment on arrive à se détacher de ce scénario noir qui mm-hmm. se présente à nous, qui est ressassé, qui nous place dans une impuissance permanente. Et mine de rien, Gaëlle plaisantait tout à l'heure sur mon histoire drôle que j'amenais aujourd'hui. En fait, je trouve ça presque, je ne vais pas dire guilleret, hein, mais rassérénant. Parce mmh. qu'il y a quelque chose d'assez offensif qui casse ce sentiment d'impuissance qu'on a tous en nous. Et voilà, je recommande vivement cette lecture-là, même si on est 10 ans plus tard, parce qu'en fait, ça n'a pas pris une ride, malheureusement. Il pose les questions d'une façon extrêmement, extrêmement intéressante et stylistiquement vraiment remarquable.
Voilà. Alors, on rappelle le titre « La nuit est encore jeune ». Du collectif Catastrophe aux éditions Pauvert. Merci beaucoup. Nous terminons avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Guillaume, c'est toi qui commences aujourd'hui.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est un hommage. Je veux rendre hommage à Nicolas S., qui vient de conchier les professeurs des écoles en disant qu'il ne foutait rien. Je veux rendre hommage aussi à monsieur Kasbarian, ministre de la fonction publique, qui est le seul ministre de la fonction publique qui haït les fonctionnaires, avec un ouvrage de Frédéric Schifter, indispensable précis de détestation du travail, aux éditions Le Dilettante, avec des dessins de Museau. C'est une amie, Judith Viard, qu'on a invitée à ce micro, qui me l'a mis entre les mains, et je trouve ce bouquin formidable. Elle dit, voilà un livre que l'on meurt d'envie d'acheter en X exemplaires pour le laisser traîner un peu partout, pour le faire découvrir à des gens. Je me suis dit, c'est quoi ce livre? En fait, c'est un glossaire, avec plein de mots. Et là, j'en ai pris un au hasard. Non, pas au hasard. Je vais te faire concurrence, Thomas. J'ai pris le mot absentéisme, évidemment, puisque on accuse les enseignants surtout d'être absentéistes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'absentéisme ? Forme de sabotage du travail dont use à bon droit, un esclave salarié en avançant le plus souvent une raison médicale. Dans une entreprise, l'absentéisme a pour heureuse conséquence une baisse de la productivité, un affaissement des performances économiques, et mieux encore, il affecte la motivation des autres corvéables. Selon des enquêtes sociologiques concordantes, pareille révolte par disparition ou effacement s'amplifie en France à tel point que le patronat et le gouvernement prennent contre elle des mesures de coercition. Mais s'il est déterminé et habile, l'absentéiste peut déjouer les contre-visites médicales ordonnées par la direction des ressources humaines et ainsi s'adonner à ce genre de lutte des classes moins coûteuse pour lui qu'une grève. C'est hilarant, il y a plein de renvois parce qu'à chaque fois il y a des mots qui sont en italique et à chaque fois vous allez voir picoré dans le bouquin. Donc je rappelle le titre de Frédéric Schifter, indispensable précis de détestation du travail, illustré par Museau aux éditions La Dilettante, qui porte bien son nom.
Merci beaucoup Guillaume. Gaëlle, à toi.
Mon Gédéon de la semaine est l'Aquarium Ciné-Café à la Croix-Rousse. En plus d'être une salle de cinéma et un espace d'événement, le lieu programme des ateliers de cinéma pour les adultes et les enfants. L'Aquarium Ciné-Café va encore plus loin dans l'éveil cinématographique en proposant deux nouveaux ateliers pour les tout-petits, l'un pour les 3-5 ans, l'autre pour les 5-7 ans. Les cinéastes en herbe ont déjà pu fabriquer un tomatrope, dispositif qui joue sur la persistance rétinienne et a donné aux enfants l'impression de voir un poisson sauter au-dessus de la mer. Un autre atelier a proposé une animation photo-dessin axée sur le procédé de la chronophotographie. Notez bien le prochain atelier, le 4 décembre, consacré à la création d'une petite séquence en stop-motion. Les enfants animeront des petits personnages réels en pas à pas, soit image par image. L'équipe de l'Aquarium Ciné-Café est très dynamique, souriante et pédagogue, transmet sa passion pour l'image cinématographique jusqu'au public les plus jeunes, génération même de l'image. Un grand bravo à l'Aquarium Ciné-Café pour cet éveil qualitatif et ludique. Plus d'informations sur aquarium-ciné-café.fr.
Merci beaucoup Gaëlle, et tu me proposes une transition toute trouvée, tu viens de parler de chronophotographie
et moi, je vais parler tout simplement d'une bande dessinée qui évoque l'un des premiers photographes à avoir mis au point la chronophotographie. Je veux parler d'Edward Muybridge. Edward Muybridge, ce photographe anglais avec une vie absolument incroyable qui va traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis, etc. Bref, une bande dessinée vient de sortir signée Guy Delisle. La prochaine fois que vous regarderez une série ou que vous prendrez un selfie, vous penserez à Edward Muybridge. Car cet homme qui a été libraire, paysagiste, reporter, inventeur, meurtrier et conférencier scientifique, a eu un rôle majeur dans les avancées de la photographie et du cinéma. L'Anglais, né en 1830, a immortalisé des événements constituant aujourd'hui des documents inestimables comme les conséquences du tremblement de terre de 1868. Mais surtout, il a réussi à séquencer sur image le galop d'un cheval répondant à des questions qui ont échauffé les torfistes pendant des nombreuses années. Sa découverte a eu un tel retentissement que le peintre Meissonnier a retouché les pattes chevalines de ses tableaux. Son travail sur le mouvement animal et humain est d'ailleurs encore utilisé pour les dessins animés. Guy Delisle raconte le parcours de ce pionnier visuel dans « Pour une fraction de seconde, la vie mouvementée d'Edward Muybridge ». Une bande dessinée épatante en intégrant des photographies d'époque, l'ouvrage montre l'incroyable audace et la persévérance de cet homme à la vie digne d'un film. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cet étrange personnage, Edward Muybridge, pour une fraction de seconde, la vie mouvementée d'Edward Muybridge, signé Guy Delisle. N'hésitez pas à aller voir les liens que je mettrai dans cette émission. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.